Donc là, je vais passer là-dessus parce que je vais avancer un petit peu. C'est finalement, si vous voulez, on l'a ce matin rappelé, disons, la théologie de la grâce. On l'a rappelé, donc je peux passer sur ces points importants du péché, de la justice de Dieu, du sacrifice de Christ à la croix, etc. Centralité de l'œuvre de Christ, maintenant on en a parlé. L'importance de l'Écriture, on en a parlé aussi, bien sûr. Vous avez vu comment, n'est-ce pas, connaissant le latin, lisant la Bible dans le latin, la seule lecture possible à l'époque, il a pu découvrir ce qu'on a vu. Pour passer maintenant à une autre question, tout aurait pu s'arrêter là. Voilà Luther, ouf, délivré de la crainte de la mort, qui a trouvé le vrai chemin pour aller à Dieu et pour avoir confiance en Dieu. Mais comment donc tout cela, cette crise spirituelle que j'ai essayé de vous faire revivre un petit peu, comment cette crise spirituelle va-t-elle avoir une telle ampleur en Europe? C'est inimaginable. Un homme couvre l'Europe de sa pensée. Jean Hus, Wycliffe, on dit les mêmes choses que lui. Les Vaudois, bien avant encore, on dit les mêmes choses que lui. C'est resté lettre morte. Pas pour eux, bien sûr. L'un a été brûlé sur un bûcher, Jean Hus. L'autre, on avait oublié de le faire, on a déterré ses os pour le brûler après. Je sais pas. Alors, vous voyez un peu, c'était des hérétiques. Ils remettaient en question le pouvoir pontifical. Alors, qui c'est qui va intervenir? Luther, il a acquis une certaine notoriété en Saxe. L'Église, voyez un peu, un homme, l'Église. Le choc, là, était totalement, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Que voulez-vous faire? Charles Quint l'avait dit, mais aurais-tu raison contre l'Église, toi? Depuis des siècles? Mais tu rêves. Il faut arrêter. Et pourtant. Les indulgences, c'est le fondement du pouvoir des clés. Elles tiennent le pouvoir des clés. Le souverain pontife peut déclencher des indulgences. C'est-à-dire, avec ses clés spirituelles, ouvrir les trésors du paradis, c'est-à-dire les trésors des saints et du Christ, lequel, on le conçoit, a vécu justement, parfaitement, s'il en est. Donc, il a accumulé des mérites en surplus. Et on va pouvoir en faire bénéficier les pauvres humains qui sont sur la terre, pour les délivrer du purgatoire, ce lieu intermédiaire, entre le ciel et entre le paradis et l'enfer. Donc, voilà, ces indulgences sont décrétées par Jules II, puis par Léon X. Naturellement, l'idée, c'est de récupérer de l'argent. Alors, il faut être honnête, il est bien clair que la doctrine des indulgents est une doctrine qui n'est pas dans la Bible, mais, il faut quand même dire que elle associe à un sacrifice financier, elle associe aussi une pénitence et une reconnaissance de ses fautes. Il y a un exercice spirituel aussi, dans la pensée officielle des doctrines des indulgences, je m'entends bien. Maintenant, ce que les prêtres en font sur le terrain, excusez-moi, là, c'est plus pareil. Mais ne confondons jamais les choses, allons toujours à la pensée première, et pas sinon, parce que là, si on compare une doctrine avec des pratiques, là, on n'est pas dans la bonne direction. Mais n'empêche, ça demeure une théologie qui est tout à fait désordonnée. Voilà, donc c'était ici le problème spatial, c'est ce que je dis, l'Église distinguait l'absolution de la faute, le pécheur échappé à l'enfer, et la libération des peines temporelles que l'on finissait de purger dans le purgatoire. Purgatoire, purger, n'est-ce pas? Voilà, un petit peu l'idée. Et ça rassurait un peu les fidèles qui pouvaient aussi avoir un peu comme un petit peu la main un peu sur leur avenir, pas sur le leur directement, mais sur ceux de leurs ancêtres, ceux qui étaient morts avant eux. On fait des indulgences pour que Dieu réduise les peines, les lourdes peines parfois de leurs ancêtres ou de leurs parents morts. L'indulgence est prêchée en Allemagne, bien sûr, vous comprenez pourquoi, dans le duché de Saxe notamment et ailleurs, parce que là, vous avez les princes n'ont pas l'autorité suffisante pour faire front au pouvoir de l'Église. Alors, vous avez, n'est-ce pas, le moine Tetzel, le véritable représentant de commerce des indulgences, je pense un commercial tout à fait chevronné, qui va pouvoir dire, il a été surnommé le crieur public, n'est-ce pas, vous voyez, il avait, genre, je crois qu'il a pris, voilà, imaginez un peu, n'est-ce pas, haranguant dans une foire, haranguant la foule, les braves pèlerins, venez fidèles, je vais vous donner le moyen d'accéder au salut. Il faut payer pour raccourcir les peines du purgatoire. Le salut se vend et s'achète. Et imaginez un peu, d'une grande voix, Tetzel annonçant cela, dès que votre argent entre dans le coffre fort, résonne du purgatoire, brûlant l'âme vers le ciel, s'envole. C'est beau, ça. On est là, magnifique. Merci. Mais quand même, quelques pièces de monnaie dans un tronc d'église, et j'obtiens le salut du ciel. Il n'y a pas une disproportion entre les deux? Ce serait encore pour acheter à bon prix quelques objets que je convoite, pourquoi pas. Le salut, c'est pas la même échelle. Donc, voilà notre Tetzel, n'est-ce pas, qui... Alors là, il va faire tout ça dans le comté, enfin le pays à côté de Luther. Donc Luther, vous savez, vous connaissez, n'est-ce pas, ses agissements. Alors l'affichage des thèses, les historiens contesteraient aujourd'hui le fait que ces thèses étaient affichées à coups de marteau sur la porte de l'église de Wittenberg. Je reste discret là-dessus, je ne vais pas fouiller, ça ne me paraît pas d'un intérêt fantastique de vérifier ou pas, peu importe. Elles ont été écrites, affichées ou pas, respectons les historiens compétents en la matière. Donc, le problème de Luther, si vous voulez, vous voyez, n'est-ce pas, l'opposition qui se passe. Le pape vous ouvre le trésor des mérites des saints et du Christ, et Luther, lui... vous donne accès par la foi au trésor de la croix salvatrice. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et voilà, n'est-ce pas, le grand conflit théologique qui s'oppose. Ces hommes-là... Alors, vous avez à l'époque, n'est-ce pas, c'était la mode, on faisait des disputations, c'est-à-dire que des étudiants, souvent, ou des jeunes, prenaient deux points de vue opposés et en public, argumentaient, etc. Ça faisait un petit peu une petite envolée lyrique. Là, c'était intéressant. Sauf qu'avec Luther, il ne le fait pas pour rien, lui. Parce que maintenant, convaincu qu'il est, parce qu'il a compris de 1 Romain 17, et puis du reste de l'Épître aux Romains, d'ailleurs aussi, il a la conviction, chevillé au corps, que maintenant, il faut agir. Et vous savez, le contexte de crise de l'époque, l'eschatologie à toutes les époques de l'histoire de l'Église a proposé des solutions. Et la fin du monde était là, urgente. Donc il s'est dit, il n'y a pas de solution. Il faut avertir les gens de toute urgence. Leur salut n'est pas lié à une pièce dans un tronc d'Église, leur salut est lié à la foi dans le Christ. Donc, il faut agir en toute urgence. Et c'est ce qui a contraint Luther à œuvrer, à risquer sa vie pour annoncer ses vérités. Voilà les 95 thèses. Alors, si, c'est juste. Luther avait écrit ses thèses dans l'idée, à l'égard plutôt de ses pères, de ses confrères, je ne sais pas comment on dit là, c'est pour... entre ecclésiastiques, donc pour les prêtres comme lui, pour les officiels, le clergé. Et il avait pris le soin de décrire dans un latin un peu compliqué. Sur moi, on ne touchera pas. D'ailleurs, j'ai bien aimé sur le, vous avez vu les films, il y avait des gens qui arrivaient devant, ils disaient, ça veut dire quoi ça? Ils ne connaissaient pas le latin, ces braves gens. Ils parlaient un patois allemand, là. Alors, il y a un homme un peu plus intelligent qui leur lit, qui traduit en latin, du latin en allemand, bien sûr. Mais finalement, elles seront traduites en allemand. Et alors, Luther pensait dire, mais je vais convaincre mais les prêtres de mon voisinage. Y a pas le pape aussi, je vais le convaincre, il n'y a pas de problème. Ils s'égarent, ils font fausse route, il faut leur dire. Et ils vont se ressaisir. Silence du côté ecclésiastique. Mais en revanche, les étudiants qui démarrent, n'est-ce pas, les universités, nous sommes à l'époque de la Renaissance, hein, c'est là où Sorbonne et Collège de France naissent, enfin, Sorbonne est née bien avant, Collège de France est née là, hein, dans ces eaux-là, avec ce distanciant de la Sorbonne, très catholique et très dans la doctrine, disons, et du coup, les étudiants, ben, c'est extraordinaire, mais c'est nouveau, mais c'est neuf, c'est des idées intéressantes, et voilà qu'on va les publier. Alors, naturellement, vous comprenez bien, l'imprimerie, on n'a pas Internet à l'époque. C'est vrai, mais on a l'imprimerie. Du coup, les thèses vont affluer en Europe. Et pourtant, les transports sont lents. Hein. Vous savez, on a pu dire, n'est-ce pas, qu'entre Jules César et Napoléon Ier, on n'a pas gagné en rapidité. Hein. Ce n'est pas maintenant avec les TGV et les avions, ce n'est pas aucun rapport. Hein. C'était le pas du cheval, le trot du cheval, pas plus. Hein. Donc, de ce fait, vous voyez, mais malgré tout, ça s'est répandu à une rapidité extraordinaire, quelque part. Dieu voulait faire connaître sa vérité. Et donc, de ce fait, il a vraiment remis en lumière des vérités premières. Quelques thèses, je vous propose quelques réparties de Luther. Vous allez voir un peu quand même qu'il était assez bon en la matière. Les trésors de l'Évangile sont des filets au moyen desquels ont pêché jadis des hommes à donner aux richesses, et il pensait, n'est-ce pas, à Pierre, je pense, alors que les trésors des indulgences sont des filets avec lesquels on pêche maintenant dans les poches les richesses des hommes. Pas mal, n'est-ce pas, on a renversé la chose. D'un côté, on pêchait les pêcheurs pour qu'ils soient au salut, maintenant on pêche dans la poche des gens leur argent pour enrichir le Vatican. Et d'autres thèses, mais c'est dommage, on pourrait en passer d'autres, mais en fait, je n'ai pas trop le temps de le faire pour l'instant. Alors, l'écho rencontré, eh bien, vous comprenez fort bien que Luther, maintenant, lui, cette idée chevillée au corps que le salut se fait par la grâce, moyen à la foi, ah, il a compris, puis maintenant il y tient. Et ça, jamais plus on ne déboulonnera là-dessus. Ça, c'est clair. Les princes allemands, ben, fantastique. Voilà quelqu'un qui remet en cause la puissance des différents du pape et de ses contraintes financières notamment. Extraordinaire. Merci Luther. Le Vatican, alors lui, Vatican, naturellement, il fait triste mine. Parce que ça, mais ça, c'est énorme, hein. Ça bouge véritablement la doctrine ecclésiastique, ça bouge l'influence, la domination du Vatican. Mais les étudiants, les humanistes, eux, se régalent, c'est fantastique, c'est des idées nouvelles, on va en profiter. Et j'ai pas mis, mais on peut penser que les imprimeurs, bah, ils voient une occasion à rêver de faire de l'argent. Impeccable, ça marche. Ah, c'est bien, ils sont commerciaux aussi. Ils ne vont pas publier des choses qui ne marchent pas, mais si ça marche, on y va. Et on en fait des nombres extraordinaires. Voilà à peu près, n'est-ce pas? Alors, qui est en présent dans ce conflit qui s'amorce avec Rome? Parce que donc, il faut bien comprendre que 31 octobre 1517, Luther apparaît en grand public. Avant, c'était un moine parmi les autres. Il y avait quelques idées originales, etc. Il y avait une crise spirituelle. Bon, très bien, ça va. Maintenant, c'est sur la place publique. Et puis, la place publique, ce n'est pas que de Saxe. Hein. Ça va littéralement inonder l'Europe. Et Luther, le voilà, un peu contre lui, pris dans cette affaire-là. Alors, vous avez ses défenseurs. Le duc, l'électeur de Saxe, Frédéric le Sage, puis sera croyant, je ne sais, mais en fait, tout du moins très ami avec Luther et protecteur de Luther, et vraiment protecteur de Luther. Les humanistes et lettrés et puis, veulent se délivrer un peu de l'autorité pontificale sur le plan des lettres, de la pensée, etc., découvrir un peu autre chose. Les hommes d'église, mais vous avez Tetzel, dont on l'a déjà vu, et le pape de l'époque, Léon X, a choisi un expert en théologie. Rassurez-vous, le cardinal Cajetan, c'est un éminent théologien, général des Dominicains, un homme qui a la répartie facile, mais avec Luther, ce sera un peu difficile parce que Luther s'appuie sur la Bible et lui s'appuie sur la tradition. Il ne parle pas le même langage. Pose problème. Voilà, donc on va continuer les différentes histoires. Alors, la situation va s'embraser, on continue ces fameuses disputations. On discute, on échange, mais Luther est un débatteur extraordinaire. Extraordinaire. Alors, une question, notre salut est-il le résultat de nos œuvres ou nous est-il imputé par la foi ? Bonne question. Alors, va dire, défends-toi les œuvres et moi, je défendais la foi. Et je ne vous dis pas, n'est-ce pas, comment ça devait se passer. J'aurais bien aimé assister à ce débat si j'avais compris l'allemand ou le latin. Avec Jean Eck, c'est un défenseur du pape et un éminent théologien aussi qui lui confrontait. Ben, on essaye un petit peu contre lui, on use différentes cartouches pour essayer de le contrer, mais il a du répondant. Hein. L'Église a-t-elle un seul chef, le Christ, et la Bible est-elle la seule autorité légitime des chrétiens ? Oui ou non ? Alors, pour le pape et pour le reste, et ben après pour la Bible, allons-y. On discute, on échange, on confronte nos points de vue. Et chaque procès est une véritable tribune inespérée pour Luther qui va véritablement coller à la parole de Dieu et s'appuyer là-dessus. Et de ce fait, quelque part, l'Esprit de Dieu va convaincre, va s'imposer, je pense, assez souvent. Dans ses grands écrits à la noblesse chrétienne, il va se tourner vers les nobles de son empire pour leur dire « mais attendez, etc. » Et ces nobles sont tout prêts à écouter ses propos puisqu'ils vont être soulagés de l'influence de Rome, bien sûr. Pour l'Église, à ses pères, il va captivité babylonienne pour dire « attention, attention à ce que vous suivez, attention aux écrits du pape, etc. » Puis après, traiter la liberté chrétienne, etc. Voici les grands écrits de Luther qu'il va donc écrire avec une plume alerte, disons, comme on connaît. La rupture avec Luther. Donc Charles Quint, 19 ans, élu en juin 1519, roi des Romains. 19 ans. Et situation délicate de l'Empire, il comprend bien, cet homme est un homme intelligent, vous comprenez bien, en tant qu'empereur du Saint-Empire romain, il sait la fragilité de son Empire, il connaît ça, il sait que le Nord est attentif à ce que dit Luther, on va dire pro-réforme, convaincu ou pas, mais intéressé par ce que Luther propose. Le Sud, lui, reste conservateur, plus proche de Rome, dont faut ménager la chèvre et le chou. C'est pas facile. Quant à Charles Quint, il est convaincu que Luther est un hérétique. En bonne et due forme, ça c'est clair. Seulement, il va dire au pape, c'est gentil, mais enfin, je parle en termes familiers, s'il faut convoquer la diète de Worms, ça s'appelle une convocation annuelle, où les différents princes ou électeurs, etc., se réunissaient, attention, je vais faire une division dans mon empire, moi. Il avait un regard politique concret, pratique, pragmatique sur la situation politique de son empire. Donc, le problème, il est là. Alors, l'Église va condamner Luther sans discussion. Luther réclame ça, une vraie chance. Alors, Luther, il réclame, il dit, mais je veux qu'on discute avec la Bible, qu'avec la Bible, pied à pied. Je veux ça. Mais chaque fois, on évite, on biaise, etc., etc., pour éviter, n'est-ce pas, de sombrer, de se rencontrer avec Luther sur le texte biblique lui-même. Alors, les événements. Donc, 31 octobre 1517, les thèses sont affichées ou pas, peu importe. Enfin, elles sont écrites et elles vont se répandre. 13 décembre, n'est-ce pas, le tempo est court. 13 décembre, l'archevêque de Mayence les envoie à Rome et leur dit, voilà, chez moi, là-bas, il y a quelqu'un qui émet des doctrines un peu nouvelles. Je ne sais pas s'il est tout à fait versé là-dedans, parce qu'on achetait, n'est-ce pas, son évêché, alors on était plus financiers, intéressés par l'argent que par les problèmes spirituels. Il y avait des grands théologiens, j'en ai cité, Cajetan et d'autres, Eck par exemple, mais d'autres étaient beaucoup moins plus intéressés par l'argent. Donc, 13 décembre 1517, avertissement du pape, au pape. Février 1518, Léon X prend contact avec Stopis, supérieur de Luther. Ben, il lui dit, écoute, en clair, en contact, je m'entends avec les moyens de l'époque. Hein. Fait comprendre, écoute, tâche d'agir là-bas sur le terrain, calme ça, tranquille. Que ça ne fasse pas de trop de panique, disons. 12 octobre 1518, Cajetan rencontre Luther à Augsbourg. Il demande tout bêtement que Luther se retire, reconnaisse son erreur et se retire de ce conflit qui, quand même, tout à fait dépassé. Et juillet 1520, première bulle du pape, menace d'excommunication si Luther ne se rétracte pas dans les 60 jours. Été 1520, des fuites répandent la bulle. Le sort, et voilà ce que dit Luther, le sort en est jeté, je méprise les fureurs de Rome, qu'ils condamnent et brûlent mes livres, je brûlerai les leurs. Novembre 1520, la bulle est publiée dans les États allemands. Que fera le jeune pape, le jeune Charles Quint? Alors c'est lui qui était le bras armé du pape. Va-t-il suivre ce que le pape lui demande de faire ou pas? Vous voyez, 19 ans... Le nord pro-réformé, le sud pro-catholique, je fais quoi? Le pape me dit ça, moi j'y crois aussi, je suis comme le pape, mais quand même, moi j'ai mon empire, moi. 10 décembre 1520, Luther brûle la bulle du pape. Je ne vous dis pas ce genre d'opération, c'est quand même pas brûler un bout de papier dans sa cheminée. Hein. C'est lourd de conséquences, c'est grave. Enfin, dans la mentalité de l'époque. 1521, nouvelle bulle du pape, excommunie Luther et le déclare anathème. Voilà, Martin Luther brûle la bulle papale, signifiant son excommunication. Rupture avec Rome, alors donc convocation à la diète de Worms en janvier 1521. Charles Quint préside donc la diète et représentant du pape, délégué des États. Un excommunié n'a pas le droit de présenter ses propos, son point de vue. Il ne peut répondre que par oui ou par non, pas plus. Donc Charles Quint va le convoquer. Luther arrive à Worms le 16 au soir. 17, difficile. Il demande un sursis, attendre un petit peu. Pour enfin apparaître, après une nuit difficile de prière, où il a failli vraiment lâcher le morceau, s'est trouvé tout seul. Imaginez-vous un peu seul devant Charles Quint, les cardinaux, Cajetan, les différents délégués des différents États, enfin tout du beau monde, du people, on m'entend bien. Hein. Et lui, le petit moine de service, ça fait du monde quand même. Donc, le voilà qui se ressaisit. L'Esprit de Dieu va l'encourager. Et le 18 juillet au matin, il va déclarer, « Si l'on ne me convainc pas par le témoignage de l'Écriture, je ne puis me rétracter, car je ne crois ni à l'infaillibilité du pape, ni à celle des conciles. J'ai été vaincu par les arguments bibliques que j'ai cités, et ma conscience est liée à la parole de Dieu. Je ne puis et ne veux rien révoquer. » C'est clair. Et sauf que, si vous voulez, on a, j'ai oublié de dire avant, que l'électeur de Saxe, Frédéric le Sage, a contacté Charles Quint, lui a dit, tu le convoques à Worms, ok, d'accord, seulement tu lui fais un sauf conduit, c'est-à-dire que tu lui garantis la sécurité pour se rendre à Worms. Et il a été effectivement... il a affrété des gardes militaires qui ont accompagné Luther. En revanche, il y avait un précédent fâcheux pour Jean Hus. Il y a eu un sauf-conduit qui n'a pas empêché le roi de l'époque, là-bas, de le mettre sur un bûcher. mais pour Luther, il a pu aller à Worms tranquille. Et pour le retour, Frédéric le Sage a délégué une escouade militaire, il l'a enlevée, et il l'a enlevée gentiment, si vous voulez, et l'a emmenée au château de Wartburg où il a, pour le cacher, si vous voulez. Voilà un peu Charles Quint, la comparution, donc le texte que j'ai lu. Impressionnant ce texte, c'est vraiment le texte fondateur de la liberté de conscience. C'est là où un homme, devant les représentants du pape, devant les représentants des différents États, va dire « moi je suis libre dans ma conscience d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Tarotel de Wagdour, donc là, donc alors son traduction de la Bible, en allemand, il a vraiment façonné la langue allemande en plus. Et il dit, n'est-ce pas, dans la direction qu'il a prise pour traduire la Bible, « Il faut interroger la mère dans sa maison, les enfants dans la rue, l'homme du commun sur le marché pour savoir comment il parle, de traduire d'après cela, traduire en mots compréhensibles par le moyen, par le commun et mortel. 5000 exemplaires du Nouveau Testament vendus en quelques jours. Imaginez avec des presses Gutenberg. Vous voyez la rapidité. Impressionnant. Voilà un petit peu là où il était, que le peuple comprenne la parole du Christ comme l'enfant comprend la parole de sa mère. Ça, le souci premier de Luther pour traduire la Bible, le Nouveau Testament, puis l'Ancien Testament plus tard. Et voilà après donc la rupture avec Luther. Les écrits après la rupture, les écrits circonstanciés qu'il va faire. Alors, je vais passer rapidement, voilà. Je voudrais l'héritage de Luther, si j'ai encore quelques minutes, là, pour faire l'héritage de Luther. Donc, alors, deux problèmes. Parce que, donc, Luther est un homme du Moyen-Âge. Et un homme et un visionnaire qui a précédé la Renaissance. Moi, le Moyen-Âge. Des prophètes, alors si vous voulez, c'est là, j'avais lu dans les tableaux, là, trois réformes. La réforme magistérielle avec les princes, c'est Luther et Calvin. Et la réforme radicale avec le peuple, voilà. Donc la réforme, et les anabaptistes, voilà, n'est-ce pas, où la réforme radicale sort. C'est que certains découvrent Luther, adoptent Luther, la pensée de Luther, la redécouverte de Luther, de ce qu'il a fait, et... veulent continuer, aller plus loin. Et vous avez la révolte des princes, la révolte du peuple. Tous ces paysans écrasés par les impôts du Vatican, mais écrasés par les impôts aussi des seigneurs locaux, vont dire, mais la liberté acquise, elle est totale, non seulement par rapport à Dieu, mais par rapport à mon environnement. Et Luther est débordé. Et c'est la guerre des paysans. Massacre. Il fait appel au prince. Et voilà la réforme magistérielle, c'est-à-dire que appel au prince, l'homme du Moyen-Âge. Tel prince, telle religion. Les Juifs. Moment difficile. Les Juifs, alors la doctrine de l'Église catholique est la suivante. C'est la doctrine dite du remplacement. L'Église remplace le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a sombré. Et sa maintenance dans l'histoire. Et la preuve, regardez ce qui s'est passé. Ceux qui ont désobéi à Dieu, qui n'ont pas suivi Dieu, regardez ce qui se passe. Persécution, etc. Ils sont renvoyés dans différents pays, etc. Donc il y a un remplacement. Donc il faut les convaincre. Les convaincre par l'argument d'abord. Et Luther aime les Juifs. Et il veut les amener dans l'Église. Mais ils ne veulent pas. Alors on va forcer un peu la mise. On va être un peu plus sévère. Alors, bien distinguer que Luther n'est pas antisémite, n'est-ce pas ? Comme Hitler se servira des écrits de Luther, à tort. Mais il est contre le peuple juif en ce sens que le peuple juif, pour lui, est obsolète. Maintenant, c'est terminé. C'est l'Église qui le remplace. Donc, il faut à tout prix, et par la force, les contraindre à devenir croyant, devenir chrétien. Il y a des paysans. Voilà, n'est-ce pas, Luther avec un prince, l'arme à la main. Le visionnaire, pour le chant, alors là, je vous renvoie à vos tableaux, il a véritablement, n'est-ce pas, la mélodie doit porter les mots pour élever l'âme du fidèle. Et merci ce matin pour les chanteurs, n'est-ce pas? Effectivement. Effectivement. Le chant amené par Luther et enfin, proposé par Luther est véritablement extraordinaire. L'individualisme, je suis lié par les textes scripturaires et ma conscience est captive des paroles de Dieu. Voilà d'où naît notre individualisme qui est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Vous voyez ? Mais belle promesse de départ. Je suis libre de grandir devant Dieu. La musique. Voilà le chant que vous avez chanté, là, disons. Après la théologie, je donne à la musique la première place et le plus grand honneur. Dieu annonce l'évangile par la musique. Le travail. Il faut savoir, n'est-ce pas, que dans le Moyen-Âge, alors on était, n'est-ce pas, sur le travail, donc sanction de Dieu, pénibilité du travail. Et de ce fait, on avait les clercs avaient acquis, ceux de l'Église avaient acquis un statut de sainteté supérieur aux autres. Si bien que le travail, c'était pour les manants, pour les pauvres gens, et le travail était donc quelque chose de contraignant, de pénible, de difficile. Luther transforme les choses, il désacralise les clercs. Ils n'ont plus, n'est-ce pas, ce qui leur donne l'autorité des prêtres d'être ceux qui sont. Désacralisant les prêtres, le pasteur, à ce moment-là, le travail devient un moment dans la vie du fidèle pour parler de Dieu aux autres. Et le travail est revalorisé. Entre parenthèses, Max Weber a fait une magnifique thèse sur le capitalisme naissant de l'époque. L'Angleterre en est la preuve avec son succès pour la première révolution industrielle du monde. Oui, n'est-ce pas? Mais là, après, nous sommes dans un dérapage. La Bible, le texte lu, il faut bien sûr que les gens puissent lire le texte. Sola scriptura, lire le texte. Le mariage, lui, moine, veut de chasteté, de ne se marier pas, va se marier avec une nonne. N'est-ce pas? Montrant que le mariage, et ce qui est important, c'est que le mariage, même d'incroyants dans ce monde, est quelque part validé par Dieu, parce que c'est le respect de la pensée divine. Et ce n'est pas le sacrement du mariage tel que l'Église le propose. L'école, il faut savoir lire la Bible. Magnifique, n'est-ce pas? Luther a créé des écoles dans son coin, là-bas. Filles, garçons, pour les filles aussi. C'est quand même en avance sur son temps. Voilà. Alors, je lis cette phrase magnifique, messieurs, c'est pour nous. Pour ma part, je ne suis pas amoureux ni ne brûle de passion, mais je la chéris d'un amour réfléchi. Conclusion. Me semble-t-il, s'il y avait des idées à retenir, parce qu'on a toujours dit comme ça qu'on partait avec pas beaucoup de... Vous m'avez expliqué, il n'a pas beaucoup d'idées à emporter. Merci, à emporter. Voilà. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse réforme? En clair et en court, en abrégé. On avait sola scriptura et tradition. On avait sola gratia et les œuvres. On avait sola fide et la raison. Luther a enlevé la tradition, la Bible seule, a enlevé les œuvres, la grâce seule, a enlevé la raison, la foi seule. Non pas que la raison ne soit pas utile aux croyants, loin de là, ni les œuvres, n'est-ce pas? Mais les œuvres seront la conséquence de mon engagement, de ma conversion à Dieu. Je veux l'honorer par mes œuvres. Elles ne sont pas avant, elles sont après, c'est Jacques. Donc, Luther ne néglige pas pour autant la place des œuvres et de la raison. L'Église, là, c'est extraordinaire. On n'a pas idée aujourd'hui, nous, protestants ou évangéliques, on n'a pas idée du changement produit. L'Église était la gestionnaire de votre salut pour l'au-delà. C'est elle qui détenait les clés, c'est elle qui disait ce qu'il fallait faire. Luther retire l'Église d'entre le croyant entre l'Église et entre Dieu et l'Église, pardon. L'Église devient le lieu de la prédication. L'image de Dieu, un Dieu saint, un Dieu juste juge. Oui, il est, il le demeure, un Dieu de grâce. Et il a manifesté par le salut à la croix. Le don gratuit du salut divin, ce qui me touche et m'émeut le plus dans ce monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, le pardon sans condition, vécu à la croix. Excusez-moi, mais comment a fait Martin Luther King pour rétablir le courant, l'entente entre des Noirs esclaves et traités comme des esclaves par les Blancs, par leurs maîtres Blancs, parfois même de la doctrine anglaise, là, anglicans, merci, pas les anglicans. Martin Luther King, et je le fais dire à mes élèves, vous incendierez nos maisons, vous violerez nos femmes, et d'autres choses encore, on vous aimera encore. Qu'est-ce que c'est le Christ? Et si vous voulez, c'est poser dans le monde d'aujourd'hui encore, ces paroles qui résonnent, les poser comme étant le seul moyen, dans des situations inextricables sur le plan politique, le seul moyen de trouver un cheminement pour arriver à des retrouvailles. C'est extraordinaire, le pardon sans condition manifesté à la croix de Christ. Voilà, ça c'est tout pour terminer. Là, les protecteurs de Luther sont le théologien, puis après le soutien politique, le fameux Ferdinand le Sage, l'électeur de Saxe, pardon. C'est les premiers alliés, le pasteur de Strasbourg, le prédicateur de Bâle. Et puis vous avez l'équipe de Wittenberg, Cranach, là, c'est un peintre. Quoi, je n'arrive pas à le lire parce que c'est trop près, là, parce que c'est venu ici. Spalatin, c'était son conseiller. C'est celui qui, à Worms, là, quand il flanchait un peu, va essayer de l'aider, mais voyez un petit peu. Luther était seul. Et là, vous avez le grand organisateur. Et Mélenchon, c'était vraiment celui qui a pris l'appui et la suite de Luther. Alors, vous avez ce qui est intéressant, c'est. Je cherche. Érasme, le prince des humanistes, Hollande, prince des humanistes, a applaudi à deux mains quand il a entendu Luther remettre en question l'Église. Mais ils ont eu une discussion, un échange de propos d'une violence extraordinaire. Érasme proposant le self-arbitre, et Luther écrivant le serf-arbitre. C'est-à-dire, d'un côté, l'homme est libre de croire, l'homme est libre et peut agir pour son salut. Érasme. Et Luther, non, l'homme dépend de Dieu pour son salut. Il a été au départ un admirateur de Luther et puis après ils se sont séparés. Voilà à peu près, si vous voulez. Voilà un peu tous les différents réformateurs, Jean Calvin, Théodore de Bèze, Jean Knox, etc., Philippe Melanchthon, Jean Hus. À Genève, le mur des réformateurs, Guillaume Farel, Calvin, Théodore de Bèze, Jean Knox. Voilà, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La bibliographie qui m'a servi de verset. Merci.